Donc bienvenue sur la rage avec l'association Drôle en scène qui est venue en enregistrement nous faire des lectures théâtrales et qui revient un petit peu pour nous parler de tout ça. Donc bonjour tout le monde, est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter au début de cette émission ?
Alors je vais commencer, je m'appelle Fabrice Pass, je suis le président de l'association Drôle en scène, association donc sorégnoise qui a pour but de présenter le monde du théâtre et du spectacle vivant aux enfants et aux adolescents du Val-de-l'Indre.
D'accord, très bien. À côté ?
Bonjour, je m'appelle Mathis Azan, j'ai 11 ans. Je fais du théâtre avec Léopold et Louise à Drôle en scène depuis 6 ans.
Donc les derniers, Léopold et Louise, c'est ça ?
Bonjour, je m'appelle Léopold, j'ai 13 ans et ça fait depuis 6 ans que je fais du théâtre.
Bonjour, je m'appelle Louise, j'ai 13 ans, je fais du théâtre depuis 7 ans maintenant à Drôle en scène.
D'accord, très bien. Donc voilà, ça fait déjà plusieurs années pour tout le monde que vous faites tous du théâtre. Très bien. Fabrice, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des textes que vous avez pu venir lire la dernière fois,
oui,
qu'on va pouvoir écouter lors de cette émission?
Tout à fait. En fait, les textes sont différents extraits de spectacles. C'est-à-dire que Drôle en scène a pour ambition de faire des activités culturelles et artistiques autour du spectacle vivant, parmi lesquelles le théâtre. Et chaque année, on fait un ou des spectacles en fonction des années. Et du coup, on a décidé d'éclairer un peu nos activités par le biais de ces lectures. Qui sont des spectacles différents proposés chaque année à Drôle en scène.
D'accord, très bien. Donc les lectures qu'on a pu voir vont faire partie d'un spectacle, c'est ça ?
Alors, on fait ou vont faire partie. Il y a différents extraits, c'est-à-dire qu'il y a, je crois qu'il y a une dizaine d'extraits, et il y en a trois du prochain spectacle, et tous les autres sont des anciens spectacles, plus ou moins vieux.
D'accord. Voilà. Donc, j'en ai reconnu certains de mémoire. Il y avait quelque chose qui s'apparentait à Slumdog Millionnaire, en tout cas.
C'est ça,
enfin, j'ai reconnu du film.
Ça, c'est le dernier spectacle.
D'accord.
Qui est une adaptation du livre à la base, puisque le film est adapté du livre. Et en fait, nous, on a fusionné le livre et le film parce qu'en fait, le livre est beaucoup plus violent que le film. Et donc à partir de là, nous, on a réadapté à notre sauce, et surtout on l'a réadapté à l'espace scénique, ce qui est pas du tout,
d'accord,
ce qui était pas du tout ça au départ. En fait.
Donc les extraits de Slumdog Millionaire, qu'on va pouvoir écouter tout de suite.
C'est vraiment toi ?
Je t'ai enfin retrouvé.
Qu'est-ce que tu fais là ?
Je suis venu te voir.
Voilà, tu me vois. Et après, on fait quoi ?
Pars avec moi, Latika.
Pour aller où ? On vivrait de quoi ?
D'amour. Je t'en prie, pars avec moi là, tout de suite.
On n'a aucune chance.
Salim pourrait nous aider.
Salim ? Tu crois qu'on peut encore compter sur Salim ? De toute façon, je vais bientôt quitter la ville. On va déménager.
Quoi ? Où ça ?
Tu crois qu'il me le dirait ? Allez, va-t'en, avant qu'il ne nous tue tous les deux. Tu veux vraiment faire quelque chose pour moi ?
Oui.
Alors oublie-moi.
Quoi ? Non, je vais t'attendre. Je travaille au restaurant chez Jimmy entre 17h et 1h du matin. J'y travaillerai tous les jours pour être sûr de pouvoir t'y voir venir. Je t'aime.
À quoi ça sert ? C'est trop tard. Va-t'en.
Alors ça y est, il a avoué, c'est bon ?
Bonjour chef.
Je t'ai posé une question.
Non chef, à part son nom, il n'a rien dit. J'ai rien pu tirer de lui.
Mais t'as dormi ou quoi ? Ça fait 2 heures que vous êtes ici.
C'est un client difficile.
Un client difficile ? Tu parles. Comment tu as dit qu'il s'appelait ?
Je vous l'ai pas dit chef.
Et donc ?
Il s'appelle Ram Mohamed Thomas.
Ram Mohamed Thomas ?
Oui chef.
Très bien, Ram Mohamed Thomas. C'est donc toi notre fameux gagnant.
Sauf votre respect chef, il n'a pas encore gagné. Il lui reste encore la 12e question.
Où travailles-tu ?
Au bar-restaurant chez Jimmy.
Eh bien, tu vois, Nanda, ce n'était pas si difficile.
Chef.
Je dois bien avouer qu'il est encore plus jeune que je ne l'aurais cru. Bonjour, messieurs. Mon nom est Alice Johnson. Je représente le groupe Encore Télémédia, la société américaine qui détient les droits du jeu.
Je ne crois pas que le moment soit le mieux choisi pour ce genre de civilité.
Je crois, au contraire, que vous devez savoir pour qui vous travaillez, si on peut appeler ça du travail.
Je suis désolée de vous faire assister à cela, mademoiselle Johnson, mais j'ai reçu des ordres de prêt.
Prem Kumar, je sais. Vous demandant de brasser ciel et terre pour savoir comment ce petit avorton des bidonvilles a pu réussir à répondre aux 11 premières questions de QVGDM.
QVGDM.
Le sigle de qui veut gagner des millions. Le jeu le plus célèbre de toute la planète.
Je ne vous cache pas que je n'ai jamais vraiment compris cet engouement pour ce jeu télévisé.
Pourtant, ce jeu déchaîne les foules partout dans le monde. Et notre jeune invité est en train de pulvériser tous les records nationaux. Voyez-vous, la chose la plus convoitée au monde, mon cher ami, ce n'est pas le sexe, c'est l'argent. Et plus la somme est élevée, plus la convoitise est forte. Prem Kumar, qui détient en partie les droits du jeu en Inde, nous a appelés hier soir suite à l'émission. Ce dernier nous a expliqué la situation. Ayant connu quelques incidents similaires par le passé dans d'autres pays, nous nous sommes dit qu'il serait bon que j'explique aux forces de l'ordre local les jeux réels que cache cet incident.
Des incidents similaires ?
Que vous a dit Prem Kumar ?
À vrai dire, je n'ai pas eu la chance de voir ce monsieur franchir les portes de mon commissariat. Les hommes qui nous l'ont amené nous ont expliqué brièvement qu'il s'agissait d'une tricherie au sein d'un jeu télévisé et qu'il devait à tout prix avoir avoué son méfait avant la seconde partie du jeu, dont le tournage aura lieu ce soir, la routine en somme.
Mais dans quel pays sommes-nous ? Écoutez, ce jeune homme vient de participer à l'édition spéciale du jeu Qui veut gagner des millions. Le jeu consiste à répondre à une série de 12 questions afin de gagner une somme d'argent importante. Ce gamin s'apprête à remporter le plus gros gain de l'histoire de la télévision indienne.
Et c'est quoi le gain final ?
10 millions de roupies.
Voilà, pour donner une idée, il me semble qu'il y a quelque chose de La Vague.
Tout à fait, c'est une autre adaptation qu'on a fait.
Qui est aussi un livre, qui est aussi un film, et qui est aussi une BD qu'on a ici d'ailleurs à l'accueil jeune que je vois d'ici.
C'est ça. Ça c'était pour les 10 ans de l'association, et avec ce spectacle-là, on est même parti en tournée. On a fait 7 représentations devant 1000 spectateurs au total.
D'accord. Ah oui, donc un gros projet sur l'année dernière, c'est ça ?
C'était en 2011.
D'accord. Ouais. Pour illustrer ce qu'on vient de dire, les nouveaux extraits, les deuxièmes extraits autour de La Vague.
Je suis resté là un bon moment, dans cette salle de classe, contre ce bureau. J'ai bien dû me repasser la scène une dizaine de fois en essayant de comprendre ce qui s'était passé. Bien sûr, je me suis d'abord remis en question. Était-ce ma pédagogie qui avait échoué ? Ma façon d'aborder les choses avait-elle été trop légère ? Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire que ce ne sont que des ados, plus préoccupés par leur nombre d'amis sur Facebook que par le devoir de mémoire, que ce n'est qu'un cours d'histoire parmi les centaines que je donnerai durant toute ma carrière, et que ce n'est pas si grave. Seulement, il ne s'agit pas d'une simple remise en cause personnelle. Parce qu'au-delà de la manière que j'ai eue d'aborder les choses, très peu d'élèves finalement ont réagi à la provocation de Nicolas, de Lucien et des quelques autres. J'en viens même à me demander si c'était vraiment une provocation. Pensait-il vraiment ce qu'il disait ? En quelques mots, le je m'en foutisme adolescent a balayé d'un revers 50 millions de morts, l'antisémitisme, le fascisme et les camps de concentration. Et leur attitude a fait de la Seconde Guerre mondiale un fait divers de plus dans la rubrique des chiens écrasés. Et c'est justement là le problème. À quel moment l'histoire a-t-elle perdu son sens pour devenir une chose impersonnelle ? À quel moment l'histoire est-elle devenue une liste de dates, de faits et une succession de contrôles de connaissances ? À quel moment l'histoire avec un grand H est-elle dissociée de leur histoire personnelle ? Pire encore, certains étudiants avec une arrogance déconcertante n'ont pas hésité à afficher leur supériorité face aux générations précédentes. Le temps des questions innocentes semble à présent révolu. Il ne s'agit plus d'essayer de comprendre le comportement des Allemands sous le Troisième Reich, qui serait à même de le faire d'ailleurs, mais de s'interroger sur la probabilité de l'émergence d'un contexte politique similaire, ici, aujourd'hui, avec eux, avec vous. Ces gosses savent ce qui s'est passé, ce qui a précédé la Seconde Guerre mondiale. Mais eux pensent pouvoir faire face à une situation identique si elle venait à se reproduire maintenant. Ils ont soi-disant appris des erreurs de leurs aînés. Ils pensent être forts, armés, éduqués, pour ne pas retomber dans un piège similaire. Une aisance, une facilité et ce sentiment de croire que le monde leur appartient et qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Une force, au premier abord. Je suis sorti de cette salle de classe avec toutes ces pensées en tête. Je suis passé par la bibliothèque pour rendre quelques bouquins et en emprunter de nouveaux. Et c'est sur le chemin du retour que l'idée a point en moi. Celle d'une forme pédagogique nouvelle et éphémère liée à la semaine thématique. Une expérience pour les plus scientifiques d'entre vous, une leçon pour les plus moralisateurs. Et pendant qu'ils passeront le week-end à faire la fête, je ferai en sorte qu'ils se souviennent qu'un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir.
Très bien. Donc, les autres qui sont avec nous, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces textes-là ? Est-ce que pour vous, ça a été facile à apprendre ? Parce que moi, je vous ai vu les lire devant moi. C'est vrai que c'était quelque chose de... entre guillemets, d'un peu impressionnant parce qu'il y avait quand même de la matière, il y avait quand même pas mal de textes, il y en avait certains qui passaient sur plusieurs textes, donc j'imagine qu'il y avait plusieurs textes différents sur plusieurs histoires différentes à apprendre. Vous avez plusieurs années de théâtre, donc j'imagine que pour vous, ça commence à être facile, mais est-ce qu'au début, c'était un peu difficile, la mémoire, tout ça ? Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe pour le théâtre.
Bah, au début, c'est vrai qu'on a un peu le trac, donc on a un peu de mal à l'apprendre, mais...
Le même track qu'à la radio ou Alors là, il est devenu à peu près aussi rouge que la bonnette de son micro.
C'est ça.
Donc oui, tu nous parlais de track un petit peu au théâtre. Le track tout le temps quand on lit le texte, même en répète ou surtout avant de rentrer sur scène ou voilà, des choses comme ça.
Oui, avant qu'on soit sur scène, on oublie un peu le texte parce qu'on sait qu'on va passer depuis devant plusieurs gens.
Ouais.
Alors que quand on s'entraîne, on est tout seul, donc on a plus de facilité à le mémoriser.
D'accord, donc ouais, chez toi, le track, ça se traduit par t'oublies ton texte. Quoi.
Oui,
ouais.
C'est souvent ça.
Je peux comprendre. Ouais,
c'est souvent ça.
Moi qui ai fait de la musique aussi, track, ça se traduit souvent parce que j'oublie
le trou
tout
noir,
ce que je joue.
Quoi.
Voilà, c'est ça. Et les autres, un petit peu du track, des problèmes pour apprendre les textes,
ouais,
des choses comme ça.
Souvent avant de monter sur scène, puis après, on se souvient de tout parce que c'est comme si on était dans une bulle et puis...
D'accord, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, quoi.
Voilà.
D'accord. Et on va finir la section d'extrait avec les textes, justement, dont on parle, qu'on peut oublier. Donc avec cette dernière session d'extrait qui comporte, il me semble, quelque chose autour du Tour de Monde en 80 jours et de la mythologie.
Notre histoire commence le 28 décembre 1895. Nous sommes à Paris, il est près de 21h.
Plus précisément, nous sommes au 14 boulevard des Capucines, juste à l'angle de la rue Scribe, au Grand Café. Malgré l'heure tardive, les trottoirs sont noirs de monde. Cependant, nul ne prête attention aux deux affichettes apposées depuis ce matin sur les vitres du Grand Café.
Ce soir, 21h, cinématographe, 1 franc.
1 franc, ça fait 15 centimes la place. Messieurs Pathé et Gaumont ont revu leur tarification depuis, il me semble.
L'hiver est d'une rigueur sans précédent dans la capitale. Le froid est glacial et humide. Le ciel est bas et sans étoiles ce soir-là. Il ne devrait pas tarder à neiger. Mais les prévisions météorologiques de l'époque sont encore quelque peu limitées.
Merci Evelyne Delia.
Nous sommes le 28 décembre 1895. Nous sommes au Grand Café, à Paris. Plus précisément au sous-sol de cet établissement, dans une ancienne salle de billard aménagée pour l'occasion et rebaptisée pompeusement le Salon Indien.
La salle est quasiment vide. Quelques chroniqueurs de la presse scientifique et directeurs de théâtre, dont un certain Georges Méliès, ont été conviés à la séance. Mais rares sont ceux qui ont fait le déplacement.
Les scientifiques ne sont guère concernés par ce qu'ils perçoivent comme un divertissement ou un spectacle vulgaire.
Le froid a eu raison de la plupart des journalistes qui n'ont pas daigné à se déranger.
Seule une poignée de curieux ont répondu à l'invitation.
Les historiens tablent entre 33 et 35 spectateurs ce soir-là.
À 15 centimes la place, les recettes ne seront pas lourdes ce soir-là.
Nous sommes le 28 décembre 1895. Il est 21h, précise, et nous sommes à quelques secondes de la présentation officielle de la nouvelle invention des frères Louis et Auguste Lumière.
L'histoire que nous allons vous raconter commence lors de cette soirée.
Vous vous apprêtez à assister à une révolution.
Vous êtes sur le point, comme ces 35 spectateurs, d'assister à la première projection des frères Lumière.
Puis de faire un saut dans le temps et dans l'espace.
Dessiner reporter au cinéma muet.
De la création des premiers studios d'Hollywood à la nouvelle vague des Chabrol, Truffaut ou encore Godard.
De l'émergence des vedettes hollywoodiennes des années 1930 au cinéma en trois dimensions, en passant par Bollywood.
De Tim Burton à Charlie Chaplin, de Quentin Tarantino à Alfred Hitchcock.
Vous vous apprêtez à vivre 120 années de créativité artistique, de passion et d'innovation technologique.
Cette septième création de drôle en scène vous emmène de l'autre côté de l'écran, celui du 7e art.
Inutile d'espérer y voir quelques scènes théâtrales que ce soit, ou encore mise en scène, effets visuels, chansons ou chorégraphies. Cette année, tout se passera de l'autre côté de l'écran.
Nous sommes le 28 décembre 1895, il est 21h.
Et l'heure de la révolution cinématographique a sonné.
Voilà, vous connaîtrez la suite demain.
Quoi ?
Et si, c'est l'heure d'aller au lit.
Mais tu ne peux pas nous faire ça.
Il a raison, on ne peut pas attendre jusqu'à demain soir sans savoir ce qui va se passer. Il le faudra bien pour toi.
Allez, sois gentil. Raconte-nous la suite.
Non.
Ton prix sera le mien. Qu'est-ce que tu veux ?
Si tu crois que tu vas pouvoir m'acheter comme ça, allez, au lit, tous les deux.
T'es vraiment nul. Et toi, tu ne dis rien ?
Non. Je suis simplement déçue.
Déçue ?
Oui, je pensais que notre grande sœur était de notre côté, alors qu'en fait, elle est avec papa et maman. C'est une traîtresse.
Moi, une traîtresse ?
Parfaitement.
Elle a raison, traîtresse.
Je ne suis pas une traîtresse.
Pourtant, c'est toi qui veux nous envoyer au lit.
Eh ouais, traîtresse.
C'est toi qui a commencé à nous lire cette histoire et qui t'a arrêté en plein milieu.
Eh ouais, traîtresse.
C'est toi qui...
Ça va, c'est bon. Vous avez gagné, je vais continuer à lire votre histoire.
Oui.
Mais dès que je vois que vous vous endormez, je m'arrête. On est d'accord ?
On est d'accord.
Bien joué.
C'était trop facile.
Bravo, Sorette.
C'est bon ?
Nous sommes tout de suite.
En se lançant dans ce pari, Phileas Fogg ne se doutait pas un instant du retentissement qu'allait provoquer son départ. La nouvelle se répandit en premier lieu à la Royal Academy. Et bientôt, c'est la ville de Londres tout entière qui entra en effervescence.
Monsieur, Phileas Fogg vient d'arriver à Paris. Il est dans les temps. Il devrait prendre l'Orient Express d'ici quelques heures. ce qui lui permettrait de rejoindre Constantinople d'ici une quinzaine de jours, comme il l'avait prévu dans son plan de vol.
Comme si je n'avais pas assez de ce cambriolage, il faut également que je me préoccupe de cet imbécile parti faire le tour du monde.
C'est une étrange coïncidence, non ?
De quoi parlez-vous ?
Si je ne m'abuse, le cambriolage a eu lieu la nuit qui a précédé votre visite chez le professeur Fogg, et par conséquent, celle qui a précédé votre altercation avec lui.
Je ne vois pas en quoi les deux affaires pourraient-elles avoir un lien.
J'étais présent lors de votre aimable discussion. J'ai tout vu. Comment le ton est monté, comment le pari a été lancé, et comment l'enjeu est devenu plus important que n'importe quel autre pari, comme pour lui. Que par hasard, ce larcin est justement la base de l'argumentaire de Fogg pour accuser la Royal Academy d'être une structure désuète et passéiste. Ce qui lui permet de vous lancer le pari de faire le tour du monde en 80 jours pour prouver que lui est un grand scientifique. Il touche la corde sensible en vous traitant de scientifique d'une autre époque. Vous prenez la mouche et...
Continuez, Colombo, continuez.
Si c'était Fogg, le voleur.
Fogg, voleur de la banque ? Laissez-moi rire.
Pardon, mon raisonnement était un peu rapide. Je reprends. Si Fogg perdait volontairement...
Je ne comprends pas.
Si Fogg faisait exprès de perdre et qu'il ne revenait jamais à Londres...
La Royal Academy s'en porterait bien mieux.
Surtout que nous aurons sûrement arrêté le coupable d'ici là.
Sauf si ce voleur est Fogg et que sa fuite à l'étranger avait été dissimulée derrière un prétexte fumeux.
Vous voulez dire...
À Paris, par exemple. Celui de faire le tour du globe en 80 jours. Un pari fou, un pari insensé, et finalement impossible à réaliser.
Ne me dites pas que...
Comptant sur votre fougue et sur votre aplomb légendaire, il a tout manigancé pour que le pari devienne un leurre derrière lequel se cacherait un autre dessein.
Mais ça paraît complètement absurde. Comment Fogg aurait-il pu imaginer que la discussion mènerait à ce pari ?
C'est très habile, effectivement. Ce pari lui permet de faire sortir tranquillement du pays les 10 millions de livres et lui donne 80 jours pour se mettre à l'abri, où il le souhaite, sur la planète.
Quand part-il de Paris ?
Demain soir. Combien de temps vous faut-il pour aller à Paris ?
Je peux y être demain matin.
Et voilà, messieurs, vos passeports.
Merci, mon brave.
Notre première escale est validée. Plus que 79 jours et 24 718 miles à parcourir. On y est presque.
L'Orient Express partira ce soir à 23h. Son départ s'effectuera sur le quai numéro 7. Voilà vos billets.
Bien, merci.
Je vous en prie, la SNCF vous remercie de votre confiance.
Allez, nous avons l'après-midi libre pour visiter Paris.
Passepartout. Ce ne sont pas des vacances, mais un voyage scientifique.
Vous avez plusieurs heures devant vous, et vous n'êtes qu'à quelques mètres de Montmartre et de la place du Tertre. Il serait dommage de ne pas en profiter.
Vous êtes guide touristique, peut-être ?
Non.
Alors occupez-vous de faire partir le train à l'heure, ce ne sera déjà pas si mal.
Déjà en 1872, la SNCF a une bonne réputation. Détendez-vous, tout va bien se passer. Nous sommes dans les temps, non ?
Oui.
Et tout est prêt pour notre périple jusqu'à Istanbul ?
Oui.
Alors vous voyez ? Inutile de vous mettre dans cet état. Vous allez nous faire un infarctus avant même d'avoir quitté l'Europe.
Je voulais juste revoir...
L'itinéraire ?
Oui.
Très bien. Faisons cela en terrasse en ce cas. Excusez-le. Il est un peu surmené.
Il n'y a pas de mal. Bon séjour à Paris.
Il y a près de 3000 ans, une petite barge entrait dans un port du pays qui s'appelle encore aujourd'hui la Grèce. Deux hommes, enveloppés de grossiers manteaux, se trouvaient sur l'embarcation. Les kilomètres qu'ils avaient parcourus n'avaient d'égal que l'imaginaire des habitants qu'ils croisaient à chacune de leurs escales. Sous leur manteau, l'un des hommes tenait une lyre finement ouvragée. L'autre portait fermement un parchemin sur lequel étaient gravés 1000 secrets. C'étaient les deux choses les plus importantes que ces deux hommes possédaient. Les deux aèdes voyageaient de village en village, de hameau en hameau, chantant des poèmes et racontant les exploits d'héros antiques. La nouvelle de leur arrivée se répandit rapidement dans la ville. Des femmes, des enfants, des soldats, des esclaves, des prisonniers. Tous étaient là, à attendre les premières notes, les premiers mots. On dit même que ce soir-là, les dieux s'arrêtèrent de se disputer la conquête de l'Olympe pour écouter cet étrange récit.
Voici l'histoire d'un homme qui, par bravoure, témérité et fierté, affronta le plus grand défi que les dieux avaient imposé aux hommes. L'histoire d'un homme qui marqua les esprits par sa fougue, sa puissance et son intelligence.
N'y cherchez aucune moralité, aucun sens commun. Notre histoire s'est déroulée il y a des centaines et des centaines d'années. Le monde était encore jeune et la limite entre le songe et la réalité, parfois chimérique.
Tout commença sur le mont Olympe, à quelques lieues d'ici.
Voilà pour les derniers extraits. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'apprendre le théâtre et dans le fait d'enseigner le théâtre? Je ne sais pas si on peut dire enseigner le théâtre.
Oui, on peut,
mais,
bien sûr. Ça s'enseigne.
Voilà,
c'est
double
pas...
question pour les enfants et pour le président. Qu'est-ce qui vous plaît dans enseigner le théâtre et apprendre le théâtre?
Alors, enseigner le théâtre, la force de... Beaucoup de parents viennent parce que leurs enfants ont par exemple des problèmes de timidité. D'autres, au contraire, ont besoin de canaliser une énergie. Donc en fait, on répond à la base à une certaine demande. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus d'enfants parce qu'en plus de faire du théâtre, on fait d'autres activités, vidéo, magie, danse, chant, musique. Et donc c'est vrai que du coup...
Dans la même association, tout
ça. Ouais. On a beaucoup ouvert. On a beaucoup ouvert et c'est important parce que du coup, ça permet aux enfants de pas justement apprendre que du texte, et on essaie de les introduire dans toutes les phases de construction du spectacle. C'est-à-dire que, ok, on va leur donner un texte, il va y avoir une distribution faite préalablement par moi, puisque c'est moi qui écris les textes ou qui adapte les textes pour les spectacles, pour la scène. Et à partir de là, ils prennent possession du spectacle. Le spectacle est à eux une fois qu'ils ont les textes, et on construit ensemble les différentes phases. Donc ça va des décors aux costumes. On a une journée ou un week-end entier avant le spectacle où on va construire tout ça, quoi.
D'accord.
Donc, il y a aussi toute cette phase-là, toute la phase qui n'est pas visible au spectateur.
D'accord. Donc j'imagine que toutes les années doivent être différentes.
C'est ça.
Je ne sais pas si... Enfin là, vous en avez qui font du théâtre depuis plusieurs années. Je ne sais pas s'ils font depuis plusieurs années avec vous d'ailleurs. Mais j'imagine les groupes doivent être relativement soudés.
Alors oui, c'est ça. Alors en même temps, ça évolue parce que ce qui est drôle avec les groupes, c'est qu'on va avoir une personne qui va partir, il va y avoir tout un équilibre à refaire. C'est ça qui est intéressant. Et puis j'aime bien avoir un peu de sang neuf tous les ans. C'est-à-dire que la difficulté avec des associations, c'est que souvent, elles peuvent avoir tendance à rester entre copains ou entre potes, même pour les adultes. Et c'est vrai que du sang neuf, c'est toujours bon parce que ça apporte toujours une nouvelle dimension à un groupe. Et puis du coup, ça nous donne envie d'aller vers d'autres choses. Ça permet de rééquilibrer les rôles de chacun au sein de ce groupe. Après, à Drôle en scène, nous, on limite à 50 le nombre d'enfants. Enfants et ados, mais on en a refusé une quinzaine cette année encore, et c'est vrai qu'après c'est toute une gestion, donc pour que ça fonctionne entre les plus jeunes qui ont 6-7 ans et les plus âgés qui ont 18-19 ans, on met en place un système de parrainage, c'est-à-dire que les 25 plus grands vont avoir en parrain les 25 plus jeunes, ce qui fait que du coup, les 4 groupes qui sont à la base des groupes de travail de 10-12 enfants, n'en forment plus qu'un par le biais de ce système de parrainage. Et c'est d'accord. Vrai que ça fonctionne bien.
Et donc ça va de 18-20 ans jusqu'à les plus petits, ils ont quel âge ?
Ils ont, à partir du moment où ils savent lire, ils sont acceptés en fait. C'est pas un âge, enfin ça fait 6-7 ans quoi, ça fait
donc,
CE1
ouais,
quoi.
6 ans quoi.
Ouais, c'est
voilà,
ça.
6-7 ans.
Ils sont arrivés, ils avaient 6 ans. Léopold, Mathis et Louis, tu devais avoir 7 ans. Quelque chose comme ça. Et là maintenant ils sont grands.
Oui, je vois ça. Et vous, donc du coup. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'apprendre du théâtre? Qu'est-ce que vous, ça vous a apporté? Est-ce que ça a changé pour certains en 6 ans, 5 ans, 7 ans, je ne sais plus, toutes les années d'expérience de théâtre, que je n'ai pas d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de faire du théâtre? Pourquoi vous y allez je ne sais pas combien de fois par semaine d'ailleurs, on peut peut-être le dire.
Une fois en fait, en début de saison une fois, et puis ça a tendance à s'accélérer. On fait en plus des ateliers pendant les vacances sur des journées complètes. Des espèces de mini stages autour d'un objectif, genre construire une scène de théâtre en une journée ou construire une chorégraphie en une journée, parfois à 20, parfois à 50, parfois à 10, voilà. Et puis plus on avance vers la date du spectacle, et forcément plus ça s'accélère, quoi.
Forcément. Donc du coup, qu'est-ce qui vous plaît dans tout ça, dans le fait d'organiser plein de choses sur des week-ends et...
C'est le fait qu'on puisse s'exprimer devant plusieurs personnes, et puis ça permet de nous... On est moins stressé, on est moins timide en faisant du théâtre, devant les personnes par exemple.
D'accord.
Pour s'approcher vers les gens, on est moins timide.
Ok. Les autres ?
Louise, on ne l'a pas entendue ?
Ouais, Louise. Alors il y a changement de casque,
c'est ça.
Un casque pour deux. Donc toi, qu'est-ce qui te plaît dans le théâtre ? Qu'est-ce que... Je sais pas quel âge tu as déjà ?
J'ai 13 ans.
Voilà, 13 ans... Personnellement, moi j'en reçois quelques-uns de 13 ans ici. Je pense que si je leur parle de théâtre, ils font des bombes 2 mètres de haut. Après, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Mais pourquoi toi, tu fais du théâtre ?
J'ai commencé à l'âge de 7 ans parce que j'étais timide et j'avais besoin d'enlever cette timidité. Et puis, le théâtre, c'est devenu une passion où on y passe du temps, on fait des rencontres. Et puis, voilà.
D'accord, très bien. Donc des rencontres aussi. Les autres ne l'avaient pas dit encore. On parlait tout à l'heure de groupes soudés et tout. Je pense qu'il doit y avoir une petite bande de copains aussi, non ? Quelque chose. Moi, je ne sais pas. Je crois qu'il y en avait 10, 12 la dernière fois.
La dernière fois, ils étaient 12, ouais.
En tout cas, on faisait des enregistrements, on demandait le silence à chaque fois qu'il y avait une lecture. Mais par contre, quand on arrêtait de demander le silence, en tout cas, ça rigolait bien sur les canapés ici.
Oui, oui, non, il n'y avait pas de soucis.
Je pense qu'il y a une bonne bande de copains aussi.
Ouais, puis on s'entend bien, donc il y a une bonne ambiance.
Bah, c'est important, je pense.
Ouais.
D'accord, très bien. On va finir par, on va dire, un petit peu les projets à venir, les choses
bien
en
sûr.
Cours. J'entends parler plein de choses par l'intermédiaire du Facebook de l'accueil jeune, des choses comme ça,
oui.
Une histoire de concours un petit peu. Donc,
tout à fait.
Je ne pense pas que ça soit clair pour tout le monde. On va clarifier un petit peu tout ça.
Bien sûr. Alors, Drôle en scène a été sélectionné parmi des milliers d'associations à l'échelle nationale par la fondation EDF, qui est donc la fondation de l'entreprise EDF, et qui a pour vocation de mettre en évidence l'activité associative sous toutes ses formes, sportive, culturelle, les associations autour de la santé, de la discrimination, de l'environnement aussi. Et en fait, il y avait 1000 associations au départ, donc entre-temps il y a eu des écrémages, donc nous ne sommes plus que 720, et Drôle en scène fait partie des finalistes. Alors on est encore 700, mais c'est déjà bien.
C'est déjà ça.
C'est déjà ça, à l'échelle nationale, c'est chouette. Et en fait, à travers ces trophées EDF, il y a différents types de prix. Il y a des prix délivrés par un jury qui font partie de cette fondation, donc qui sont des professionnels du monde associatif. Il y a un prix des salariés de l'entreprise EDF et il y a le prix du public. En fait, n'importe qui possède une adresse email peut aller voter sur le site internet de Drôle en scène, et plus il y a de votes et plus il y a de chances d'être sélectionné. Alors, il y a le prix du public, mais en plus, toute l'émulation qu'aura provoquée ce concours autour de l'association par rapport au nombre de visites sur son site, au nombre de visites sur la page EDF de Drôle en scène, des choses comme ça, vont permettre à l'association d'être présélectionnée dans les 100 derniers, puis dans les 30 derniers. Et au mois de juin, il y aura une grande remise de prix qui sera faite à Paris.
D'accord.
Voilà. L'année dernière, c'était c'était à Paris, c'était au Quai des Orfèvres, je crois.
D'accord. Et donc, le site internet de Drôle en scène qui est
www.drôleenscène.net.
Voilà, donc pour aller voter, pour soutenir, on va dire, cette association pour ce concours.
Juste une précision, si vous avez plusieurs adresses email, vous pouvez voter à chaque fois que vous avez une adresse email.
C'est ce que je me suis dit aussi.
Fabrice.
Voilà.
Ah. Et du coup, on est à combien de votes aujourd'hui ?
Très bonne question.
Je vais te laisser le micro pour les prochaines émissions, la semaine prochaine en direct.
Voilà, exactement. On doit être à peu près 600 votes. Votes, quelque chose comme ça. On est
à une échelle des autres associations, c'est beaucoup ou c'est...
Ben, en sachant qu'il y a 50 adhérents. Alors, il y a 50 adhérents, mais il y en a beaucoup qui sont frères et sœurs. Donc, ouais, c'est pas mal. Commence à être pas mal.
Après, vous n'avez aucune idée des votes
on est entre 20 et, on est entre la 20e et la 30e place pour l'instant.
Ah oui, donc sur 700, donc, c'est quand
c'est
même
pas mal.
Assez
non, ouais, c'est
même.
Plutôt pas mal. Ouais, on est content.
Je crois qu'on est 560. On est à 569 votes ce matin.
Peut-être.
Ouais,
à peu
c'est
près.
Très
voilà.
Précis.
Voilà.
Est-ce qu'on peut vous retrouver sur des spectacles de fin d'année sur des,
oui, bien sûr.
Quand je dis spectacle de fin d'année, ça fait un petit peu scolaire.
Ouais, c'est un
mais
peu péjoratif,
sur,
ouais, j'aime pas.
Je ne sais pas comment appeler ça, du coup. Sur,
en fait, c'est vrai que c'est forcément un spectacle à la fin de l'année, mais c'est vrai que justement notre objectif c'est de faire en sorte de sortir un peu de la dynamique kermesse.
C'est ce que j'allais dire, ça fait un petit peu école maternelle et kermesse. Ouais.
Voilà, donc
même si les kermesses,
il y aura un spectacle en fin de saison qui aura lieu le 12 et 13 juin, et cette année on fait une adaptation du Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne.
Dont on a eu des lectures aussi.
Dont vous avez eu des lectures.
Qu'on va écouter juste après d'ailleurs. Où est ce spectacle, pardon ?
Ah pardon, à la salle des fêtes de Sorigny.
D'accord.
Donc c'est pas très loin d'ici. Il y a à peu près 500 spectateurs possibles sur deux jours, en sachant que c'est généralement complet, donc il faut réserver. Il y a un numéro sur le site internet, vous pourrez réserver à partir du 1er mai.
D'accord,
voilà.
Très bien. Donc se tenir alerté sur le site internet
de
Drôle en scène à partir
sur,
du 1er mai pour pouvoir réussir à avoir sa place.
C'est ça.
Sinon ce sera strapantin ou à la
porte. Non, parce qu'après on dépasse les quotas, donc,
voilà.
Donc ça sera à la porte. Ça sera le prochain spectacle.
Donc, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, tout le monde ? Une petite dédicace pour papa, maman, la grand-mère, le chat, quelque chose à rajouter. Inviter tout le monde à voter, inviter tout le monde à venir au spectacle. Voilà, aller voir un petit peu de théâtre, changer un petit peu les idées, voir.
Ouais, et puis surtout on a une idée un peu sectaire du théâtre quand même. Quand on dit théâtre, souvent c'est ce que tu disais tout à l'heure, théâtre, je fais des bons. Et voilà. Justement, l'objectif c'est un peu de désacraliser ça. On n'est pas là pour se prendre la tête et pour faire des textes tout droit sortis des manuels scolaires, quoi.
Voilà, c'est ça. On est là voir aussi dans mes lectures, pour... c'est quand même des choses actuelles que moi j'ai pu reconnaître, étant donné que j'ai dû aller au théâtre à peu près 4 fois dans ma vie. Si je les ai reconnus, c'est que c'est pas du, voilà, c'est pas.
Ouais,
du...
et puis on essaye de mettre beaucoup d'humour dans tout ça, de parodique. Voilà, quand on a fait l'Iliade et l'Odyssée, on a fait une parodie de l'Iliade et l'Odyssée. Forcément, qu'on n'allait pas traiter ça d'une manière purement mythologique, c'était juste pas possible, quoi. On avait 32 heures de spectacle, sinon.
Bah écoutez, merci tout le monde.
Merci à toi.
Merci.